ce qui se passe présentement, on vient de parler de la PCU, et évidemment, il y a des gens qui associent ça à une espèce de revenu minimum garanti qu'on s'est fait rentrer dans la gorge sans débat. Si effectivement ça devait être prolongé, c'est un peu ça à quoi ça pourrait ressembler. Et cette semaine, j'ai vu une étude qui est sortie de l'IRIS. Ça, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Moi, j'appelle ça un peu le Québec solidaire des think tanks, mais je sais pas si notre prochaine invitée, qui est chercheuse à l'IRIS, va être d'accord avec ma définition. C'est Audrey Lorrain-Lamotte qui est au bout du fil. Bonjour, Madame Lorrain-Lamotte.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec ma définition? Acceptez-vous ça que l'IRIS, c'est l'équivalent de QS au niveau des think tanks?
Non, absolument pas. Québec solidaire, c'est un parti politique. Nous, on est des chercheurs et des chercheuses.
Oui, mais vous avez une tendance idéologique.
À améliorer le bien-être des Québécois et des Québécoises.
J'ai jamais dit que vous étiez un parti politique. Je parle juste qu'idéologiquement, vous logez un peu à la même ancienne que QS. Là. C'est juste ça que je voulais dire. C'est un peu comme l'Institut économique de Montréal, qui est un peu plus à droite. Vous autres, vous avez une sensibilité de gauche.
On propose des politiques progressistes, oui.
OK. Bon, là, je veux commencer parce que vous avez proposé notamment un revenu minimum. Et là, je veux savoir, le revenu minimum garanti, est-ce que ça serait comme une PCU que vous échelonneriez, que vous continueriez? Là? Il y aurait pas, ça serait pas temporaire, ça serait permanent. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez?
En fait, pour pallier les problèmes économiques qu'on vit actuellement dans cette crise-ci, mais aussi les problèmes économiques qui se révèlent à chaque crise dans notre économie capitaliste, on a trois propositions. Et oui, on a une politique nationale du revenu. Cette politique-là, elle vise à faire une distribution plus égalitaire des revenus. Donc, on vise un revenu minimum garanti pour couvrir les besoins de base. Ensuite, un salaire minimum régional qui serait augmenté en fonction des communautés et en fonction du coût de la vie aussi dans les communautés. Donc, on sait que les communautés plus éloignées, les communautés autochtones, il y a un coût de la vie qui est plus élevé parce que le transport des marchandises fait en sorte que, ça coûte plus cher.
Ça donnerait quoi, Mme Lorrain-Lamotte? Mettons quelqu'un à Québec, il faudrait qu'il reçoive combien minimalement? Là,
en ce moment, ce qu'on vise, c'est aussi à établir une rémunération maximale pour les dirigeants des entreprises ou les personnes qui ont le plus de pouvoir à l'intérieur des entreprises. Donc, il y a un revenu minimum garanti qui serait établi en fonction des besoins de base.
Mais avez-vous un chiffre?
Un meilleur salaire minimum. Ce qu'on a fait dans cette étude-ci, c'est une réflexion politique, sociale et économique. C'est une réflexion qui vise
mais on
à
a déjà
ouvrir
un, là,
le débat.
640$ d'aide sociale, c'est un revenu minimum, ça? Les gens qui sont sur l'aide sociale, au Québec, le revenu minimum, c'est l'aide sociale?
Le revenu minimum, l'aide sociale, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a plusieurs critères d'inclusion et plusieurs critères d'exclusion. Donc, on sait, par exemple, qu'avec ce revenu-là, c'est impossible de couvrir des besoins de base. Là, pensez à l'électricité, au téléphone, comparer ça à la moyenne des loyers au Québec.
Donc, dans le fond, vous voulez monter le salaire, vous voulez monter le montant qu'on donne en aide sociale. C'est ça, le revenu minimum. Là, pour vous autres, c'est d'augmenter l'aide sociale.
Un revenu minimum garanti, pour nous, c'est un revenu citoyen. C'est attaché aux droits sociaux et aux droits de vivre dans la dignité. On sait qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans notre société. On sait qu'on a des problèmes de rétention de l'argent des plus nantis qui s'en vont dans les paradis fiscaux. Donc, on veut absolument aller chercher cet argent-là,
Madame Lorrain, je comprends ça. Madame Lorrain-Lamotte, je comprends que si l'argent poussait dans les arbres, on voudrait tout que tout le monde soit payé 1 million par année. Mais vous allez financer ça comment? Parce que si, mettons, 650$, c'est pas assez, puis si on double ça ou triple ça, moi, j'ai pas de problème. Là. On peut lui donner 5 000$ par mois à tous les assistés sociaux. Qui va payer?
Comme je vous dis, on a un problème de rétention d'argent chez les plus nantis. On doit aller chercher l'argent dans les paradis fiscaux. On doit imposer davantage les plus nantis.
Ça veut dire
on
augmenter les taxes et les impôts à quel pourcentage? Là, vous voudriez, par exemple, moi, je suis un bien nanti, OK, je fais d'un 6 chiffres. Vous voudriez mettre quel pourcentage de mon revenu que je paye en taxes et en impôts pour qu'on augmente les assistés sociaux?
En fait, l'idée derrière ça, c'est que tout citoyen participe à la vie collective. On ne participe pas uniquement en recevant un salaire.
Là, vous êtes une politicienne. Vous avez dit que vous ne travaillez pas pour un parti politique, mais vous ne répondez pas aux questions. Là, je ne vous parle pas de réflexion philosophique.
On peut participer à la vie politique en étant proche aidante. On peut participer c'est okay. À la
quel
vie
pourcentage
sociale.
De mon salaire vous voulez prendre? C'est ça, ma question,
en
c'était
fait,
ça.
Dans notre proposition, votre salaire serait revu. Parce que on propose aussi de démocratiser les entreprises.
Démocratiser une entreprise. On vote?
Absolument. On voterait ou il y aurait d'autres mécanismes de participation des employés. On sait déjà que les entreprises où on consulte plus les employés sont des entreprises plus performantes. On réussit mieux à régler les problèmes. On réussit mieux à organiser le travail. Donc, nous, on propose dans une entreprise, premièrement, d'abolir l'idée centrale de maximisation de profit. Il faut que l'entreprise elle ait une utilité sociale. Ensuite, ce qu'on propose, c'est un revenu maximal. Donc, vous et vos employés, vous auriez une sérieuse discussion pour établir quel serait votre revenu à vous vis-à-vis de celui des autres employés. Et dans notre proposition, c'est, cette différence-là ne devrait pas être de plus de 10 fois.
Là, on parle beaucoup donc, des conspirations. Ça veut dire 10 fois. Ça veut dire que si je payais 100 000 $, faudrait pas que la personne la plus basse, elle gagne 10 000.
Exactement.
Ben, c'est déjà ça, je pense, non?
C'est possible dans toutes les entreprises et on sait que, par exemple, il y a un ratio d'à peu près 1 à 400 fois pour les grandes entreprises au Québec. On a juste à prendre l'exemple d'Alain Bellemare qui est parti avec une prime de départ d'environ 12 millions.
Ouais,
on
là,
est
c'est
loin.
C'est le gouvernement qui a payé ça. C'est ça le problème. C'est parce que à cause justement des gens comme vous qui veulent un gros État. C'est pas l'entreprise privée qui ferait ça. S'il n'y avait pas têté des subventions à coups de milliards dans les poches des contribuables, il aurait jamais fait 17 millions. Il n'y a personne qui aurait donné 17 millions pour faire une job de pied de même.
Il n'est pas le seul dans cette situation-là. Je comprends que c'est un exemple exceptionnel, mais le ratio actuellement entre les grands dirigeants des entreprises et les employés, il est de plusieurs centaines de fois. Okay. Donc, et dans un pays, même aux États-Unis, par exemple, ouais. La ville de Portland, elle a établi un impôt supplémentaire aux entreprises qui paient trop leurs dirigeants, dont le ratio dépasse, en fait, une fois okay. sur 200 fois.
Là, j'ai un auditeur qui m'écrit, dit, moi, je travaille chez Desjardins, vous savez que c'est un gros employeur, nous autres, dans notre région. Ils ont des 50 000 employés. Ils disent, on commence à voter ces salaires de tout le monde. On n'est pas sorti du bois.
En fait, il ne s'agit pas nécessairement de passer son temps à délibérer pour chaque prise de décision spécifique. On peut établir une politique pour l'ensemble de Desjardins, par exemple. Et d'ailleurs, Desjardins fait partie de notre plan pour sortir de cette crise. Donc, on souhaite remettre Desjardins aux mains des Québécoises et des Québécois.
Vous voulez nationaliser Desjardins. Vous voulez que Desjardins appartienne au gouvernement plutôt qu'être privé. C'est ça que vous proposez, là.
Desjardins, c'est pas privé. C'est une coopérative.
Ça appartient à ses
membres. Donc, on souhaite, exactement. Donc, on souhaite redonner du pouvoir à leurs membres. On souhaiterait ouvrir des caisses locales qui sont capables de mieux connaître les besoins dans chaque région du Québec. Aïe, aïe. Et au niveau régional, il y aurait des investissements par région. Donc, si on souhaite, par exemple, développer le transport collectif dans une région en particulier, on pourrait, à ce moment-là, utiliser les leviers financiers que okay. Desjardins et les autres banques nous permettent pour pouvoir réaliser ces grands projets-là.
Vous prônez aussi l'abolition des compagnies à but lucratif. Ça veut dire des compagnies qui font de l'argent. Fait que vous voudriez abolir les compagnies privées qui génèrent des profits, c'est tout ça?
En fait, il ne s'agit pas d'abolir les entreprises, mais de revoir leur orientation. Au lieu d'être orienté vers le profit, il serait réorienté vers l'utilité sociale et environnementale que ces entreprises peuvent faire. Oui, absolument. On pense, par exemple, au problème des pharmaceutiques. Donc, on sait que ce sont des grosses entreprises qui font des milliards de profits. Il y a plein de travailleuses et de travailleurs à l'intérieur de ces entreprises qui cherchent pas nécessairement à ce que la valeur boursière de leur entreprise croît. Veulent, c'est de développer des vaccins, c'est de développer des médicaments pour que la population se sente, ait en fait accès à des meilleurs médicaments. Donc, à ce moment-là, il s'agit juste de réorienter l'ensemble de l'activité économique vers une utilité sociale oui, mais et c'est, environnementale.
Ça veut dire, Mme Lorrain-Lamotte, là, que ce qu'on vit depuis 2 mois et demi au Québec, là, pour vous, c'est le paradis, parce qu'au niveau environnemental, on n'a jamais émis aussi peu de gaz à effet de serre. On n'a plus d'auto qui roule. Nos usines roulent à moitié quand ils roulent. Tout est utilitaire. Là, c'est ce qui fait le plus d'argent, c'est les épiceries, parce que justement, il faut manger. Puis y a pas, on fait la queue partout pour attendre. On reçoit des chèques du gouvernement. Le gouvernement contrôle qu'est-ce qu'on peut faire, quand on peut faire, puis comment on peut le faire. Pour vous, là, le système actuel, depuis 2 mois et demi, vous devez penser que c'est le paradis?
Absolument pas. Moi, je pense aux travailleurs et aux travailleuses qui sont payés en bas de l'échelle, qui sont en bas de l'échelle, aux travailleurs et aux travailleuses qui sont dans les milieux de santé, qui vivent une grande détresse psychologique au travail parce qu'il y a une désorganisation des soins. C'est vraiment pas facile pour tout le monde. On pense aux parents qui sont à la maison. Donc non, pour moi, c'est pas le paradis. Une crise, c'est extrêmement grave. Une crise sanitaire, c'est grave. Une crise économique, c'est très grave. Et on doit prendre la mesure de ce qui arrive pour ne plus que ça se reproduise et pour saisir l'occasion de développer une économie qui est résiliente et qui vise en fait des objectifs sociaux et environnementaux.
Mais c'est parce que Madame Lamotte Lorrain, là, vous avez de l'air d'une bonne petite madame, là, puis je suis sûr que vous avez le cœur à la bonne place. C'est bien beau distribuer des chèques à tout le monde, là, mais à un moment donné, il faut que l'argent vienne de quelque part. L'argent, il pousse pas dans les arbres. Où c'est que vous allez le prendre? Qui va générer de la richesse au Québec si on se met à tout donner l'argent à tout le monde puis à être généreux comme vous voulez l'être?
Moi, ce que je pense, c'est que cet argent-là, il existe dans les banques, il existe dans les grandes entreprises du Québec et qu'on doit absolument aller chercher ce capital privé et redonner la possibilité aux travailleurs, aux travailleuses et aux consommateurs, consommatrices du Québec de décider de ce qu'ils ont besoin. Eux-mêmes, ils sont parfaitement en mesure de savoir ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour leur région, et d'utiliser ce capital privé-là pour le mettre au profit de plans structurants qui peuvent nous sortir de la crise. Au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grands plans de relance économique. Ce sont ces plans-là qui ont permis l'élévation du niveau de vie et la réduction des inégalités sociales. Et on doit repenser ce modèle-là. On peut pas revenir dans un modèle de surconsommation de production à n'en plus finir.
Mais attends une minute, là. C'est parce que là, si on fait ça, Madame Lorrain, si on fait ça, là, Madame Lorrain Lamotte, je veux juste que vous soyez consciente que l'incitation à travailler va être nulle. On le voit, là. Les étudiants, ils reçoivent 1 250$ par mois. Ils veulent plus aller au champ. On est pogné qu'on a des gens à l'île d'Orléans qui sont plus capables de trouver du monde pour ramasser leurs fraises puis leurs bleuets. Qu'est-ce qui va arriver si vous commencez à faire ça? C'est qu'on n'aura plus d'incitatif à travailler. Vous allez décourager le travail puis on va se ramasser toute la gang pauvre raide. C'est clair. Tous les pays qui ont adopté le régime communiste que vous êtes en train de me décrire, là, ça s'est tout mal fini. Moi, je déménagerai pas à Cuba ni en Corée du Nord à cause de ça, là.
Bon, il y a 2 choses. D'abord, nous, on propose pas un régime communiste qui est justement centralisé et antidémocratique. La démocratie, hein, qui est la liberté de pouvoir dialoguer et de choisir ensemble, c'est au cœur du projet que nous proposons. Et c'est à l'opposé de ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc, donner plus de pouvoir à un employé sur son milieu de travail, donner plus de pouvoir à un préposé bénéficiaire pour mieux organiser les soins, donner plus de pouvoir à une couturière qui souhaite actuellement fabriquer des masques, c'est pour nous la direction vers laquelle on doit aller. D'autre part, le revenu minimum garanti, il doit être accompagné d'un salaire minimum qui est viable. Ça fait des années que les organisations syndicales, les mouvements sociaux demandent un 15 $ de l'heure. Si les gouvernements avaient acquiescé à cette demande, on n'en serait pas là. On n'aurait pas une pénurie dans des secteurs ou dans des activités à très faible revenu, ou du moins, ça serait atténué. Et finalement, concernant le revenu minimum garanti, c'est pas une incitation à ne pas travailler. Il y a une étude qui a été faite en Norvège. On a pris un groupe de citoyens qui recevaient le revenu minimum garanti et on l'a comparé à un groupe qui ne le recevait pas.
Oui.
Et les gens qui reçoivent le revenu minimum garanti, ils vivent moins de stress, ils ont une meilleure concentration et ils veulent prendre des risques. Ils veulent se lancer en affaires, ils veulent innover. Quand on peut pas faire quand on vit une situation stressante, quand on a plusieurs emplois à conjuguer, quand on sait pas comment qu'on va payer notre loyer le mois prochain.
Mais là, donc, Madame Lorraine Lamotte, ceux qui veulent lire l'étude, de toute façon, est disponible sur le site web de l'IRIS, si j'ai bien compris. Là, vous avez rédigé ça, vous avez écrit cette étude-là avec un dénommé Mathieu Dufour. Vous, avez-vous une formation en économie ou c'est quoi votre formation, Madame Lorraine Lamotte?
Moi, je suis professeure à l'Université de York à Toronto et j'enseigne dans un programme qui s'appelle Business and Society.
Hey,
et donc, je m'intéresse au lien entre la société et l'économie.
OK. Puis vous avez étudié là-bas aussi?
J'ai une formation en sociologie économique.
À quel endroit?
À l'UQAM.
Ah, je suis surpris. OK. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Puis ceux qui en veulent plus, ben, ils iront lire le reste de l'étude. Là, c'est une étude assez volumineuse qui se trouve sur votre site web. Merci à Mme Audrey Lorraine Lamotte, qui est chercheure à l'IRIS.
Oui, bonjour.
Au revoir.